Les patins d'argent, chapitre 11. Mynheer Cliff et ses provisions de bouche. Le lion rouge devient dangereux. Nos jeunes gens découvrirent bientôt une auberge de modeste apparence située dans Bridge Street. Un drôle de lion était peint au-dessus de la porte. C'était l'enseigne du Rudeloyf ou lion rouge. Tenu par Huygens Cliff, gros hollandais aux jambes plus courtes que la pipe. Nos six écoliers étaient terriblement affamés à cette heure. Le goûter pris à Harlem n'avait eu pour effet que de les mettre en appétit, et cet appétit ne s'était pas mal aiguisé par l'exercice du patin et la course rapide à la voile. « Allons, notre hôte, donnez-nous, et tout de suite, ce que vous pourrez, » dit Peter assez pompeusement. « Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, » répondit Mynheer Cliff, en exécutant un salut laborieux. « Eh bien, alors, servez-nous des saucisses et du boudin. »« Hélas, Mynheer, il n'y a plus de saucisses et le boudin a disparu. »« Du hoche-pot, alors, et beaucoup, s'il vous plaît. »« Il n'y en a plus non plus, jeune maître. »« Alors, servez-nous des œufs et dépêchez-vous. » »« Les œufs d'hiver sont un pauvre manger. » répartit l'aubergiste en pinçant les lèvres et levant les yeux au plafond. « Pas d'œufs ? Eh bien, des sandwichs au caviar, alors !» L'aubergiste souleva ses grosses mains. « Du caviar ? C'est de l'or en barre, ça ! Qui est-ce qui a du caviar à vendre ?» Peter en avait souvent mangé dans la maison paternelle. Il savait que les sandwichs étaient beurrés d'un composé d'œufs d'esturgeon, mais il n'avait pas l'idée de ce que cela coûtait. « Qu'avez-vous donc alors, Mynheer ? » demanda-t-il. « Ce que j'ai, mais de tout. J'ai du pain de seigle, de la choucroute, de la salade de pommes de terre et les harengs les plus gras de l'Aïd. « Qu'en dites-vous, mes amis ? » demanda Peter. « Cela vous va-t-il ? » « Oui, oui !» s'écrièrent les affamés. « N'importe quoi, pourvu qu'ils se dépêchent !» L'aubergiste s'éloigna et revint du pas d'un somnambule. Mais il ouvrit bientôt les yeux tout grands en voyant la promptitude miraculeuse avec laquelle ses harengs disparaissaient. Vinrent, ou plutôt partirent ensuite, la salade de pommes de terre, de l'eau d'Utrecht, parfumée de fleurs d'oranger, et, comme couronnement, des tranches de pain d'épices desséchées. Cette dernière délicatesse n'était pas portée sur la carte. Mais Mynheer Cliff, poussé dans ses derniers retranchements, la tira solennellement de la réserve affectée à sa propre personne et jeta un regard satisfait aux jeunes gens lorsque, se levant de table, ils déclarèrent qu'ils n'avaient plus faim. « C'est bien heureux, » se dit-il intérieurement. « Le garde-manger est à sec. » Puis, se frottant doucement les mains, il demanda « Ces messieurs auront-ils besoin de lit ?»« De lit ?» lui répondit Karl d'un ton moqueur. « Avons-nous donc l'air d'avoir sommeil ?»« Je ne prétends pas cela, mon jeune maître, mais un moment peut venir où vous ne serez pas fâché de trouver de bons lits, et j'ai besoin d'être prévenu pour les préparer et faire chauffer les draps. Personne ne couche dans des draps humides au lion rouge. »« Reviendrons-nous nous coucher ici, capitaine ?» dit Karl se tournant vers Peter. L'hôtel ne payait pas de mine. Peter était habitué à des logements confortables, mais il avait été entendu qu'on ne ferait pas de folie. « Pourquoi pas ? » répliqua-t-il. « Nous avons admirablement dîné ici. Nous y dormirons de même. Eh bien, Mynheer, vous pouvez tenir les chambres prêtes pour 9 heures. J'ai une magnifique chambre à 3 lits qui contiendra vos seigneuries, » dit Monsieur Cliff d'un ton insinuant. « Cela suffit. » Lorsqu'on fut dehors, Karl se mit à siffler. « Qu'est-ce qui vous prend ? » lui dit Ludwig. Rien. Seulement, Mynheer du Lion Rouge ne se doute pas de la manière dont cette chambre va danser ce soir. Allons-nous faire sauter les traversins et tout ce qu'elle contient, hein ? Je ne souffrirai aucun désordre, Karl, dit Peter. Nous ne sommes pas des milords pour nous permettre de rien détériorer, soit ici, soit ailleurs. Qui casse les verres, les paie. Que personne ne l'oublie. Je vais être obligé de vous quitter un instant. Il faut que je me mette à la recherche de ce fameux docteur Bockmann dont ce pauvre Hans attend la visite avant de penser à dormir. S'il est à Leyde, je n'aurai pas de peine à le trouver, je l'espère, car il descend toujours au Grand Aigle. Quant à vous, mes amis, je me demande pourquoi vous n'allez pas sagement vous mettre au lit tout de suite. Vous trouvez qu'il est encore trop grand jour? Mais alors, quels sont vos projets? Si vous conduisiez Ben jusqu'au musée, je crois qu'il ne s'en plaindrait pas. C'est une bonne idée, dirent Ludwig et Lambert. Jacob Pout préféra accompagner Peter. Ben essaya en vain de lui persuader qu'il ferait mieux de rester à l'auberge et de se reposer. Il déclara qu'il ne s'était jamais senti si bien portant. Il désirait jeter un coup d'œil sur la ville qu'il ne connaissait pas du tout. « Oh, cela ne lui fera pas de mal, dit Lambert. Quelle bonne journée, et si remplie, hein, camarade? Je ne puis pas croire que nous n'ayons quitté Brock que ce matin. » « Je me suis bien amusé aussi, » dit Pout, en dissimulant mal un bâillement. « Mais il me semble que nous sommes en route depuis 8 jours. » Karl se mit à rire et marmotta quelque chose entre ses dents. « Il a dormi toute la journée, » fut tout ce qu'on put entendre. « Nous nous séparons ici, camarade, » dit Peter. « Le rendez-vous général est pour ce soir, à 8 heures, au Lion Rouge. »« Pourvu que je rencontre le docteur, » se disait-il. Je serai si heureux de pouvoir hâter le moment où il se trouvera en présence du père de Hans. » Et il pria Pout d'allonger un peu le pas s'il le pouvait. Le soir venu, les jeunes gens se réjouirent de voir qu'un beau feu flambant les attendait à leur retour à l'auberge. Karl et sa société étaient arrivés les premiers. Peter et Jacob les suivirent de près. Peter était extrêmement contrarié. Il n'avait pu mettre la main sur le docteur Bockmann, et cependant on lui avait affirmé, dans les maisons où il avait espéré le rencontrer, qu'on l'avait vu à Leyde dans la matinée. « C'est impossible, » lui avait dit l'hôtelier du Grand Aigle, auquel il avait fini par s'adresser. « Le docteur loge toujours ici lorsqu'il est dans la ville. » Si on l'avait seulement aperçu, traversant une rue, il y aurait en ce moment foule à ma porte pour le consulter. Les hommes sont si bêtes. Mais on dit que c'est un grand chirurgien, lui dit Peter. Oui, le plus grand de la Hollande. Mais qu'est-ce que cela prouve? Et le beau mérite? Mais quel butor! Ce n'est pas un chrétien, c'est un ours. Pas plus tard que la semaine dernière, il m'a traité d'animal. Ici même, devant toutes mes pratiques. Bah, s'écria Peter, essayant de paraître surpris et indigné. Oui, monsieur. « Un animal !» répéta l'aubergiste en tirant rapidement d'un air offensé des bouffées de sa pipe. « Ah, s'il ne payait pas un si bon prix, et s'il ne m'amenait pas autant de pratique, j'aimerais mieux le voir au fond du Vlaït que de lui donner un logement. » Monsieur Cliff s'aperçut sans doute qu'il s'exprimait trop ouvertement devant un étranger, ou peut-être vit-il un sourire errer sur les lèvres de Peter, car il ajouta aigrement. « Allons, allons !» Qu'est-ce qu'il vous faut encore? À souper? Des lits? Il y a de tout cela pour tout le monde à l'hôtel de l'Aigle. Dieu merci! Je n'en doute pas, répondit Peter, mais pour le moment, je cherche seulement le docteur Bockmann. Cherchez-le dans la lune. Il n'est pas à Leyde. Il n'était pas si facile que cela de désarçonner Peter. Ayant supporté sans s'émouvoir une bordée de paroles brutales, il finit par obtenir la permission de laisser avant tout, à l'hôtel de l'Aigle, un mot pour le célèbre chirurgien. Ou plutôt, il acheta à l'aimable hôtelier le privilège d'écrire ce mot, séance tenante, et la promesse qu'il serait remis au docteur Bockmann aussitôt son arrivée à Leyde. Faute de pouvoir faire mieux, Peter et Pout quittèrent l'hôtel de l'Aigle et retournèrent en maugréant à l'auberge du Lion Rouge. Le salon public du rez-de-chaussée du Lion Rouge faisait la joie et l'orgueil de l'aubergiste. Il ne disait jamais de cette pièce « Raccommodez-la et peignez-la », car selon lui, tout y offrait l'image de la splendeur et de la propreté hollandaise. La vérité est que tout ce qu'on y pouvait distinguer à travers un nuage de fumée était aussi propre que le savon et le sable peuvent le faire. Je ne parle pas des voyageurs. Pour le moment, le nombre en est réduit à 2 individus à l'air endormi, en sabots et misérablement vêtu, assis près du feu flambant. Ils fument sans mot dire leurs courtes pipes épaisses. Mein Urklift, chaussé de souliers de feutre, revêtu de culottes courtes de cuir et d'une ample jaquette verte, se promène de long en large sur les carreaux de la salle. Enfin, figurez-vous un tas de patins amoncelés dans un coin et six jeunes bien mis, mais fatigués et couchés plutôt qu'assis dans des attitudes ultra familières sur les chaises de bois, et vous verrez le salon du Lion Rouge tel qu'il était à 9 heures en cette soirée du 6 décembre 1800 pour souper encore du pain d'épices, des tranches de saucisson hollandais, du pain de seigle aromatisé de grains d'anis, des cornichons, une bouteille d'eau d'Utrecht et un pot de café très mystérieux. Les jeunes gens étaient assez affamés pour accepter tout ce qu'on voulut leur offrir et pour le trouver excellent. Ben seul faisait la grimace, mais Put, qui avait gagné un appétit de dog à la poursuite du docteur, déclara qu'il n'avait jamais fait un meilleur repas. Au dessert, l'idée leur vint de compter leur argent pour savoir où ils en étaient. Cette précaution prise, le capitaine, précédé d'un petit domestique, portant les patins et le chandelier en guise de hallebarde, et suivi de toute la compagnie, se retira dans la fameuse grande chambre qu'on leur avait annoncée. L'un des hommes de mauvaise mine, assis auprès du feu, se trouvait près du dressoir et demandait un pot de bière au moment où Ludwig quittait la salle. « Je n'aime pas le regard de cet homme, » dit-il tout bas à Karl. Bah, il a l'air d'un vieil ivrogne, répondit Karl d'un air de dédain et à moitié endormi. Ludwig rit, mais sans entrain. Ivrogne ou non, ajouta-t-il à voix basse, il ne me revient pas. Retournez-vous, lui dit Karl, et regardez si l'autre individu, qui dort au coin du feu là-bas, n'est pas tout pareil au premier. Non, vraiment, son visage est honnête à celui-là. Et son sommeil est celui du juste. Tout en parlant ainsi, les jeunes gens étaient arrivés à la magnifique chambre à trois lits. Une petite bonne courte et grosse les attendait à la porte. Elle leur fit une révérence et passa. Elle portait à la main une machine aux longs manches qui ressemblait à une poêle à frire. « Cette vue me réjouit, » dit Lambert à Ben. « Pourquoi ?» Et c'est la bassinoire. Elle est encore pleine de cendres rouges. Nos lits seront chauds. Quel sybarite que c'est hollandais, dit Ben. Voilà un luxe dont je me suis passé toute ma vie. Pendant ce temps, Ludwig tâchait d'expliquer à Peter le sujet d'un tableau dont il avait fait la rencontre dans les rues de Leyde et qui avait fait sur lui beaucoup d'impression. Il l'avait vu à la montre d'un marchand d'estampes pendant leur promenade. C'était une gravure des plus médiocres qui représentait deux pirates à figure patibulaire, attachés dos à dos sur le pont d'un navire et coupables sans doute de quelques crimes atroces car des marins se préparaient à les jeter à la mer. L'aspect de ces misérables était, disait-il, si cruel et si venimeux qu'il avouait avoir éprouvé une espèce de satisfaction à l'idée qu'on allait les exécuter. Il aurait probablement oublié cette scène si la figure de l'homme d'en bas ne lui avait précisément rappelé celle de l'un de ses condamnés. Aussi, bien qu'il eût tout d'abord dansé dans la chambre, comme un écolier en vacances, et qu'il eût sauté d'un seul bond sur son lit, il se surprit à prier intérieurement pour que le souvenir des personnages de ce tableau ne hanta pas ses rêves. La chambre était triste et froide. Le feu venait seulement d'être allumé dans le poêle brillant, et semblait grelotter tout en essayant de brûler. Les fenêtres, avec leurs drôles de petits carreaux, étaient nues et reluisantes, et le plancher ciré ressemblait à une grande feuille de papier verni jaune. Trois chaises de paille se tenant toutes raides contre le mur alternaient avec trois lits de bois qui donnaient à la chambre un air d'ambulance. Dans tout autre moment, nos jeunes gens aurait trouvé impossible de dormir par couple et dans des lits aussi étroits. Mais là, comme il l'était, cela ne souleva chez aucun d'eux la moindre objection. Ludwig, comme nous l'avons vu, n'avait pas entièrement perdu son élasticité. Mais les autres, après quelques essais assez faibles, pour s'envoyer les traversins à la tête, s'était arrangé pour dormir avec la plus grande gravité. Il n'y a rien de tel que la fatigue pour donner aux écoliers l'air raisonnable. « Bonsoir, camarade !» s'écria Peter de dessous les couvertures. « Bonsoir !» répliquèrent-ils tous, à l'exception de Jacob Pout. Il ronflait déjà, étendu auprès du capitaine. « Dites donc, vous autres !» cria Karl, au bout d'un instant. « N'éternuez donc pas tant. Voilà Ludwig qui se meurt de peur au moindre bruit. » « Ceci n'est pas vrai, » dit Ludwig d'une voix étouffée. Suivit alors une petite discussion qui se termina par ces mots de Karl. « Quant à moi, je ne connais pas la signification du mot peur. Vous êtes vraiment trop facile à inquiéter, Ludwig. » Ludwig, à moitié endormi, eut la sagesse de ne pas répondre. Il pouvait être minuit. Le feu s'était éteint et le plancher du dortoir ne s'éclairait plus que par la lumière vacillante de la lune qui semblait, à mesure qu'elle montait dans le ciel, vouloir visiter successivement chaque recoin de l'appartement. Ce n'était pas là tout ce qui remuait par terre, mais nos jeunes gens ne s'en apercevaient pas. Jacob Pout avait, petit à petit, accaparé presque toute la couverture. Il s'ensuivait que le capitaine Peter, à moitié gelé, rêvait qu'il était en train de patiner sur la mer de glace. J'ai dit que la lumière de la lune n'était pas seule à se mouvoir sur le parquet nu et poli. Quelque chose, en effet, s'avançait, sinon aussi lentement, du moins sans faire plus de bruit que ses blancs rayons. C'est le cas de te réveiller, Ludwig. Le pirate de ton tableau devient une réalité. Mais Ludwig dort toujours. Cependant, son sommeil est agité. Karl, n'entend-il rien non plus? Karl, le brave, le sans peur, sinon sans reproche. Non. Karl rêve qu'il est vainqueur à la course prochaine. Et Pout? Et Van Moonen? Et Ben? Eux non plus ne s'éveilleront donc jamais? Est-ce qu'aucun pressentiment ne pèse sur leur sommeil? Hélas, non. Ils sont tous à la course. Katrinka passe en chantant à travers leurs songes, puis disparaît en riant. De temps à autre, une grande vague d'harmonie, souvenir de l'orgue merveilleux de Harlem, amène sur leur visage un sourire de béatitude. L'objet, cependant, continue à s'avancer lentement, lentement. Peter, capitaine Peter, le danger s'approche. Peter n'entendit pas cette voix de son ange gardien qui l'avertissait, mais il rêva qu'il dégringolait d'un pic glacé et ceci l'éveilla. Qu'il avait froid, il tâcha de rentrer en possession de sa part légitime de couverture. Et fort inutile. Draps, couvertures, couvre-pieds étaient solidement enroulés autour de l'inamovible Jacob. Peter regarda machinalement vers la fenêtre. « Beau clair de lune, pensa-t-il, nous aurons beau temps demain. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Il aperçut l'objet mouvant, ou plutôt une chose toute noire, car cela s'était arrêté quand Peter avait remué. Il guetta en silence. L'objet recommença à se mouvoir et approcha de plus en plus. Rendu plus attentif, il acquit la certitude qu'un homme, oui, un homme et non pas un animal, comme il s'efforçait de le croire, rampait comme une chenille sur le parquet silencieux. Le premier mouvement du capitaine fut de jeter l'alarme, mais il se retint. Il voulait réfléchir un instant. Dans la main de l'homme, il voyait briller quelque chose. C'était la lame d'un couteau. Ce n'était pas rassurant. Mais Peter était doué d'une dose de sang-froid peu commune pour son âge. Quand la tête de l'homme se relevait, Peter avait soin de fermer les yeux. Il comprenait qu'il fallait qu'il eût l'air de dormir profondément. Mais, sitôt qu'elle se baissait, rien n'était plus perçant que le regard que jetait le capitaine sur les mouvements du malfaiteur. L'ombre s'approchait de plus en plus. Déjà, elle était à portée du lit de Peter. Là, Peter remarqua un temps d'arrêt. La main qui tenait le couteau le posa avec des précautions infinies sur le plancher. Un bras prudent se souleva ensuite pour atteindre les effets du capitaine, posé sur une chaise au pied du lit. Le crime allait s'effectuer. Maintenant, au tour de Peter, son plan était fait. Retenant son souffle, il se redressa tout à coup, et comme un jeune tigre, il sauta d'un bond sur le dos du voleur et s'emparant en même temps du couteau. « Si vous bougez, » dit le brave garçon d'une voix qu'il fit aussi formidable qu'il le put, « si vous remuez seulement un doigt, je vous plonge dans le cou ce couteau dont vous sentez la pointe. » S'adressant alors à ses camarades, il leur cria de toutes ses forces. « Éveillez-vous, à moi, Ben, Lambert, Ludwig, Karl, allons, Put, debout !» Et en même temps, de tout son poids, de toutes ses forces, centuplé par le danger, il écrasait la tête noire du misérable sur le parquet et avait soin de lui faire sentir la lame froide de son couteau. Le bandit avait fait un effort pour se dégager, mais la lame implacable, pénétrant soudain dans ses chairs vives, l'avait réduite à l'immobilité. Peter se sentait la force d'un géant. Put se retourna, mais il ne donna pas autrement signe de vie. « Debout, debout, camarade !» continuait à crier Peter sans changer de position. « Par le Christ, êtes-vous donc mort ?»« Mort ? Non pas !» Lambert et Ben furent sur pied en un instant. « Holà ! Eh ! Qu'y a-t-il ? » ?»« Je tiens un bandit, » répondit Peter froidement, « qui voulait nous voler et au besoin nous assassiner. Allons, camarade, prenez la corde du fond sanglée de votre lit. Ne précipitez rien. C'est un homme mort s'il bouge. » Une fois ses amis éveillés, Peter, armé de son couteau, se rendait compte que le danger n'était plus que pour le misérable dont la vie était à sa merci. L'homme hurlait et jurait, mais il n'osait pas bouger. Ludwig était aussi debout. Il avait dans la poche de son pantalon un grand eustache, l'orgueil de son cœur. C'était le moment de s'en servir. En un clin d'œil, les cordes qui garnissaient le fond sanglé du lit avaient été arrachées. Comme de braves garçons qu'ils étaient, ses amis et lui en tenaient enfin un bon long bout bien solide. « Maintenant, garçon, » dit le capitaine d'un ton de commandement, « relevez les bras de ce sacripant. Croisez-les lui sur le dos. C'est parfait. Excusez-moi si je vous gêne, mais ma position est bonne. Je tiens à la garder. » « Attachons-lui les pieds aussi, » dit Ben. Les jeunes gens, très excités, serrant nœud après nœud, eurent bientôt fait de mettre leur agresseur hors d'état de faire l'ombre de résistance. Le prisonnier avait changé de ton. Aux imprécations avaient succédé les gémissements et les prières. « Épargnez un pauvre homme. Je suis somnambule, messieurs. »« Oui, oui, » grommela Lambert, qui continuait à perfectionner ses nœuds. « Vous dormiez, c'est bon. Eh bien, nous allons vous réveiller. » Le voleur jura terriblement. Puis, se reprenant d'une voix piteuse. « Détachez-moi, bon jeune gens, j'ai 5 petits-enfants à la maison. Par Saint-Bavon, je jure de donner un billet de 10 florins à chacun de vous, si vous voulez me laisser libre. »« Vous les offrirez à la justice, » dit Peter en éclatant. Vinrent alors de la part du bandit d'effroyables invectives. « Vous ferez bien de vous taire, Meinheer le voleur, » lui dit Lambert d'une voix ferme. Le couteau du capitaine est bien près de votre gorge. Si vous excitez ses nerfs, qu'il a très sensibles, on ne sait pas à quelles extrémités il pourrait se porter. » Le voleur se le tint pour dit et garda un silence sombre. En ce moment, Put se mit sur son séant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il sans ouvrir les yeux. « Ce qu'il y a ? » dit Ludwig, moitié tremblant, moitié riant. « Il y a de l'ouvrage, même pour vous. « Mon cher Put, levez-vous tout à fait et allez vous asseoir sur le dos de cet homme-là. Cela le calmera mieux que tout et nous donnera le temps de passer nos habits. Nous sommes moitié morts de froid. »« Quel homme ! » s'écria Put. Mais déjà il avait tout compris et, toujours enveloppé dans ses couvertures, il était descendu majestueusement de son lit et s'était avec gravité assis sur les reins du voleur. « Maintenant, mes amis, dit-il, le voilà calé. « Habillez-vous !» Ce ne fut qu'un cri. « Vive, Put !» Et à vrai dire, il était magnifique. Entre-temps, Ben avait allumé une bougie. Peter, qui pensait à tout, eut alors l'idée de fouiller le voleur. La précaution était bonne. Il retira de sa poche un pistolet chargé. « Mon brave Put, » dit-il à son ami. Je vous relève de votre faction. Ce joujou la rend inutile. Habillez-vous à votre tour. » Puis, s'adressant aux prisonniers. « Grâce à ces armes dont vous avez bien voulu nous munir, vous savez ce qui vous attend si vous voulez faire le méchant. Ben, je vous confie ce pistolet. Ne perdez pas notre homme de vue pendant que Lambert et moi nous irons chercher la police. » « Une histoire de voleur, » dit Ben en s'armant du pistolet. « Et une vraie. Rien ne manque à mon bonheur. » « Mais où est donc Karl ?» demanda un des jeunes gens. « Au fait, » dit Peter, « où peut-il bien être passé ? Il ne paraît pas qu'il ait tenu à jouer son rôle dans ce petit drame. »« Peut-être s'est-il battu avec le voleur, » dit Ludwig. « Est-ce que le brigand l'aurait tué ?»« Soyez tranquille, Ludwig, » répondit Peter en boutonnant son lourd pardessus. « Regardez un peu sous le lit. » Karl n'y était pas. On entendit en ce moment un grand remue-ménage dans l'escalier. Ben courut ouvrir la porte. L'hôtelier roula dans la chambre. Il était armé d'une lourde arquebuse. Deux ou trois voyageurs le suivaient, puis sa fille, tenant d'une main une grande poêle à frire et une chandelle de l'autre. Derrière elle, pâle comme un spectre, s'avançait le vaillant Karl. « Voici votre homme, mon hôte, » dit Peter en montrant le prisonnier d'un signe de tête. L'hôte souleva son arquebuse. La fille, à sa vue, jeta un cri. « Ne tirez pas !» cria Peter. « Il est bien ficelé. Retournons-le et voyons sa figure. » Karl s'avança alors vivement. « Oui !» dit-il d'un ton menaçant. « Nous allons le retourner, mais d'une manière qui lui plaira peu. C'est bien heureux que nous l'ayons attrapé. » « Tiens, tiens !» dit Ludwig d'un air naïf. « Vous voici, Karl ? Où étiez-vous donc ?»« Où j'étais ?» répliqua aigrement Karl. « J'étais allé donner l'alarme, bien sûr !» Les jeunes gens échangèrent des coups d'œil moqueurs, mais ils étaient trop joyeux pour donner à Karl la leçon qu'il avait méritée. Il est certain que Karl était assez hardi pour le moment. Aidé de trois des autres, il retourna le voleur. Ludwig prit le chandelier des mains de la domestique et vint examiner le visage du misérable, couché maintenant sur le dos et vomissant des imprécations. « Il faut que je regarde de près cet Adonis, » dit-il en s'approchant. Il n'avait pas fini ces mots qu'il se recula d'un mouvement si violent que la chandelle manqua de tomber. « L'homme du tableau et l'homme d'en bas, » s'écria-t-il, « c'est l'homme même qui était d'abord assis près du feu. Est-ce que les pressentiments... Mes amis, dit Peter, nous avons failli être punis par où nous avons péché. Nous avions eu la sottise de compter notre argent devant cet homme. Il a voulu profiter du renseignement que nous avions été assez bêtes pour lui fournir. Nous ne sommes donc pas sans reproche dans ce qui vient de nous arriver. Nous avons tenté sa cupidité. La fille de l'aubergiste avait quitté la chambre. Elle rentra bientôt, tenant à la main une énorme paire de sabots. « Voyez, père, » dit-elle, « voici ces gros vilains bateaux. C'est l'homme que nous avons logé dans la chambre à côté, après que les jeunes maîtres furent montés se coucher. Nous avons été bien imprudents, nous, de placer les pauvres jeunes gens si haut et si loin dans la maison, à un étage où, en cas d'accident, on ne pouvait ni les voir ni les entendre, ces pauvres messieurs. « Le misérable !» s'écria l'hôte, feignant, pour n'avoir pas à y répondre, de n'avoir rien compris à ce que sa fille venait de dire. « Il a déshonoré ma maison. Je cours chercher la police. » En moins d'un quart d'heure, les agents firent leur entrée dans la chambre. Après avoir enjoint à Meinheur Cliff d'avoir à comparaître de bonne heure, le lendemain, avec les jeunes messieurs, ils emmenèrent leurs prisonniers. On pourrait penser que le capitaine et sa compagnie avaient assez dormi pour cette nuit-là, mais les amarres qui doivent empêcher la jeunesse de descendre la rivière n'ont pas encore été fabriquées en Hollande. Nos jeunes amis se remirent au lit et furent bientôt emportés de nouveau dans le pays des rêves. Ludwig et Karl avaient leur lit par terre. Le premier dormit bientôt sur les deux oreilles. Pour ce qui est de Karl, une pensée cruelle pour son amour-propre le tint éveillé jusqu'au jour. « Quel rôle d'imbécile j'ai joué !» se disait-il et se redisait-il en se retournant sur son matelas.